Et on avait commencé l'étude de la Torah. Parler de la Torah, c'est parler essentiellement de la Torah chez Paul. Peut-être qu'on pourrait faire une petite réserve dès le départ, hein, mettre un petit bémol. Le judaïsme orthodoxe actuel fait grand cas de la Torah. Peut-être un peu trop. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Justement, par réaction antichrétienne, n'oublions jamais que le judaïsme rabbinique actuel est souvent une réaction antichrétienne et se pose par opposition au christianisme. Ça, c'est le premier point, la première réserve que nous devons faire. Tant et si bien que nous ne pouvons pas accepter comme argent comptant tout ce que le judaïsme rabbinique affirme de la Torah. Exemple. Le judaïsme rabbinique a en quelque sorte introduit un canon dans le canon. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que selon la conception rabbinique actuelle, la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, serait l'objet d'une inspiration supérieure aux prophètes et aux écrits. Il est absolument évident que cette conception est totalement étrangère à la Bible elle-même et au Nouveau Testament. Jésus et les apôtres mettent évidemment sur le même plan la Torah, les prophètes et les psaumes, ou les écrits si vous préférez. Et le fait d'avoir souligné ici que la Torah serait l'objet d'une inspiration plus grande que le reste des écrits bibliques est évidemment une réaction antichrétienne à partir du moment où, du côté chrétien, on a adopté une vision négative de la Torah, antinominaliste, antilégaliste, si vous voulez, de telle sorte que, justement, il y a eu la réponse du berger à la bergère, et donc une surestimation, si j'ose dire, de la place de la Torah dans la révélation du côté juif. D'autre part, contrairement à ces affirmations, le judaïsme rabbinique actuel n'est pas exempt d'influence extérieure, et notamment justement de l'influence rationalisante hellénistique. Ça, encore une fois, il s'en défend. La réalité est beaucoup plus nuancée. Souvent, le judaïsme rabbinique accuse le Nouveau Testament et le christianisme d'être une forme hellénisée du judaïsme. On pourrait, jusqu'à un certain point, lui retourner le compliment. Depuis, justement, finalement, l'époque du Second Temple, et c'est une des, aussi des raisons de la polémique de Jésus, notamment, contre les pharisiens, c'est qu'on accordait une trop grande importance, à une exégèse qui était rationalisante de l'Écriture, une exégèse qui était donc réductrice à partir justement de présupposer que la raison humaine devait seule expliquer l'Écriture. Et jusqu'à aujourd'hui, la place de l'intervention divine est réduite autant que faire se peut. Je dis autant que faire se peut. Bon, il y a bien sûr maintenant aussi, depuis le 19e et surtout le 20e, tout un courant au sein du judaïsme intellectuel qui a adopté les vues de la critique et de l'historico-critique qui est née à partir du 19e siècle. Enfin bon, ça, laissons ça de côté si on veut. Mais par exemple, une des grandes raisons de l'échec de Jésus auprès des pharisiens, c'est l'idée que le Saint-Esprit était retiré d'Israël et que par conséquent, pour comprendre la parole de Dieu, le peuple d'Israël était réduit à la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire la raison. Raison qui s'était installée en Israël avec l'influence de gens comme Philon d'Alexandrie, par exemple, qui aura aussi une grande influence sur les pères de l'Église, mais qu'on a eu aussi sur le judaïsme de son temps, même si officiellement on niait cette influence. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'influence de la Bible des Septante, qui elle aussi était une version qui, en principe, n'était pas reconnue par le judaïsme officiel, mais qui, dans les faits, avait quand même laissé des traces, tant et si bien que, justement, il y avait une certaine hellénisation. Une hellénisation, par exemple, qui trouve son apogée à l'époque de la Mishnah et du Talmud. On trouve, par exemple, dans les synagogues de l'époque, des représentations picturales, qui sont pourtant interdites par la Torah. On trouve des représentations du zodiaque, avec donc tout l'aspect astrologie que la Bible condamne. Bon, des dérives de ce type-là, n'est-ce pas, qui montrent que on avait été particulièrement sensible à cette période, justement, à l'hellénisation. Hérode le Grand, la période d'Hérode le Grand avait aussi été marquée, d'ailleurs même déjà à l'époque des Asmonéens. Les Asmonéens qui s'étaient fait les champions de la lutte contre l'hellénisme, en fait, n'avaient pas échappé d'une certaine manière aussi à l'influence de la pensée grecque. Donc ceci étant dit, ça nous amène à comprendre pourquoi justement Jésus a été rejeté, si j'ose dire, au nom de la raison. C'est pour ça qu'il fallait des miracles. Pour authentifier le ministère de Jésus, pour qu'il soit bien évident qu'il était véritablement rempli de l'Esprit, que l'Esprit Saint, que l'on attendait évidemment au moment de la venue du Messie, était bien revenu au sein du peuple d'Israël. Bon, avant cette période, les pharisiens, par exemple, avaient des controverses très fortes avec ce qu'on appelait les chassidim, des gens justement qui, eux, souvent venus d'une extraction beaucoup plus humble, pensaient que le Saint-Esprit était encore à l'œuvre, s'attendait à des interventions miraculeuses de Dieu dans le domaine prophétique, dans le domaine de la révélation, mais aussi dans le domaine des miracles, dans le domaine de la guérison, par exemple. C'est pas bon, des choses comme ça. Les rabbins refusaient, n'est-ce pas, de reconnaître leur pouvoir jusqu'au moment où eux-mêmes malades, parfois, ils avaient recours à leur service, plus ou moins en catimédie. Bon. Donc, ceci étant dit, ça nous explique pourquoi nous sommes obligés de prendre un certain nombre de distances vis-à-vis de l'interprétation traditionnelle de la Torah par les rabbins. Ces réserves étant faites. Maintenant, il nous faut néanmoins remarquer la place, je dirais pas supérieure aux autres livres de la Bible, mais je dirais que la Torah est un corpus dans la Bible qui est le premier inter pares, le premier entre égaux. Mais on peut dire que la Torah est en quelque sorte la fondation de la révélation de Dieu. Elle jouit donc d'un caractère absolument fondamental. Ça, les Juifs ont raison de le rappeler aux chrétiens qui seraient tentés parfois, justement, de minimiser ce rôle fondamental de la Torah. Si nous disons cela, si nous disons que la Torah a un rôle fondamental, eh bien nous disons que toute révélation qui vient après la Torah doit être en accord avec elle, ce qui est d'ailleurs ce que la Torah elle-même déclare. S'il surgit un prophète, dit le livre du Deutéronome, il faudra en quelque sorte constater si oui ou non ce qu'il dit est conforme à ce qui a été révélé. Si ce prophète, même s'il fait des miracles, entraîne le peuple à servir d'autres dieux, il ne peut être qu'un faux prophète parce que son enseignement n'est pas cohérent avec ce qui a été révélé dans la Torah. Troisième élément très important, la Torah est donc de grâce de Dieu. Et ça, dans le fameux débat sur la loi et la grâce, il est quand même très important de le rappeler. Nous avons un texte qui réaffirme ça d'une manière très forte, c'est le psaume 119. Le psaume 119 qui ne cesse de s'extasier sur le fait que Dieu condescende à révéler à l'homme sa pensée, sa volonté. Et l'auteur du psaume considère qu'il s'agit d'un acte de la grâce et de la miséricorde de Dieu, un acte par conséquent totalement gratuit. Voilà. Alors maintenant, on arrive à la question centrale. S'il en est ainsi, contre quoi Paul argumente-t-il ? quand il s'en prend justement aux œuvres de la Torah. S'agit-il de la Torah en tant que telle? Et là, la majorité du monde chrétien dirait oui. Ou bien alors, s'agit-il d'un système de mérite élaboré par un certain nombre de juifs de l'époque qu'ils ont cru pouvoir tirer de la Torah? Et finalement, tout notre débat est là. Mais quand nous voyons la place de la Torah dans la parole de Dieu, nous pouvons déjà éliminer le premier terme de l'alternative. Si Paul veut rester crédible pour ses coreligionnaires juifs, et il le veut, il ne peut pas argumenter contre la Torah en tant que telle, car alors il scie la branche sur laquelle il est assis. S'il en est bien ainsi, Paul ne peut donc argumenter que contre une interprétation fausse de la Torah que l'on trouve dans un certain nombre de cercles avec lesquels il est en contact. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est notre thèse essentielle. Parce que toute écriture est inspirée, et Paul le rappelle, toute écriture, ça veut dire aussi la Torah. Je dirais presque surtout la Torah, mais sans aller jusque-là, disons aussi la Torah. Elle est inspirée par Dieu, et elle est donc fondamentale. Et maintenant, justement, il y a cette affirmation qui en découle. Donc, toute interprétation de la Torah qui serait inconsistante avec ce que la Torah dit d'elle-même ne peut être tenu pour vrai. Je répète ça parce que c'est fondamental. Toute interprétation de la Torah qui n'est pas conséquente, qui est inconsistante avec ce que la Torah dit d'elle-même, ne peut être tenue pour vrai. Et ce principe est d'autant plus fondamental que c'est à partir de ce principe que les Juifs attaquent le Nouveau Testament. Dans leur esprit, le Nouveau Testament est une attaque de la Torah, est une dévaluation de la Torah. Donc, le Nouveau Testament ne peut pas être vrai parce qu'il met en cause la Torah. Et lorsque les chrétiens disent « Oui, le Nouveau Testament dévalue la Torah, discrédite la Torah », ils ne se rendent pas compte qu'aux yeux des Juifs, eh bien, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Et non seulement cela, mais ils inculquent aux Juifs une idée fausse du Nouveau Testament, car comme nous allons le voir, le Nouveau Testament n'a pas du tout cette attitude vis-à-vis de la Torah. La notion de nouvelle alliance, à laquelle on se réfère souvent justement pour déclarer que le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, Nouveau Testament signifie nouvelle alliance en vieux français, donc, pour déclarer que le Nouveau Testament contredit l'Ancien, c'est-à-dire essentiellement la Torah, hein, à la limite, dans les milieux chrétiens, on est prêt à faire l'inverse, si vous voulez, de ce qu'on fait chez les Juifs. La Torah n'a plus d'importance. Bon, mais les prophètes, oui, parce que les prophètes, il y a des prophéties messianiques qu'on peut employer pour démontrer que Jésus est le Messie. Donc, on garde les prophètes, c'est tout ce qu'on garde. Et encore, pas tous, il faut réinterpréter les prophètes, il faut allégoriser. La nouvelle alliance n'est pas une nouvelle Torah, n'est pas une innovation. Et Brit Hadasha en hébreu ne signifie pas, comme on traduit d'ailleurs, c'est presque une erreur de traduire par nouvelle alliance. La traduction juste serait alliance renouvelée. Ça veut dire, c'est la même alliance que celle qui a été donnée au Sinaï, mais qui est renouvelée, qui a une dimension nouvelle, un souffle nouveau. Et selon le prophète Jérémie, au chapitre 31, qui est le premier à expliciter cette notion d'une alliance renouvelée, elle est nouvelle en quoi? En ce que justement, maintenant, l'homme est capable de mettre en pratique cette nouvelle Torah. Il y a parmi les rabbins, dans le Midrash, des discussions extrêmement serrées pour savoir si, au temps du Messie, la Torah sera ou non modifiée. Ça, c'est un débat qui noircit des pages et des pages du Talmud. Un certain nombre de rabbins, en effet, pensent que la Torah a été donnée pour un peuple qui était imparfait. Par exemple, il y a cette expression « la Torah a été donnée dans le langage des hommes », elle a été mise à la portée des hommes. Jésus laisse entendre quelque chose d'un peu semblable quand il dit, par exemple, parlant du divorce, « c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis, mais au commencement, il n'en était pas ainsi ». Et notamment, un certain nombre de rabbins ont noté le fait que lorsque Moïse descend du Sinaï, avec les tables, les premières tables qui sont écrites du doigt de Dieu, vous savez, il rencontre le veau d'or, et qu'est-ce qu'il fait? Il brise les tables. Puis, quand l'affaire est réglée, Dieu lui donne l'ordre de retailler des tables comme les premières, et cette fois-ci, c'est Moïse qui écrit ce qui était sur les premières tables. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas été jugé digne de recevoir la pleine révélation de Dieu. Et son péché, notamment le péché du veau d'or, a fait qu'il a fallu lui donner une Torah qui était davantage à sa portée, donc qui n'était pas parfaite. Ça va très loin. On trouve quelque chose de semblable un petit peu chez Étienne, dans le fameux discours d'Étienne. Étienne nous dit ceci, dit ça au peuple exactement, « Vous qui avez reçu la Torah par des anges et qui ne l'avez pas gardée. » Ça aussi, c'est un aspect sur lequel un certain nombre de rabbins se sont arrêtés. L'idée que la Torah, finalement, la première, les premières tables, ont été données par Dieu lui-même sans intermédiaire. La deuxième Torah a été donnée par des intermédiaires humains et aussi surnaturels, les anges. C'est donc, parler ainsi, c'est souligner le caractère limité de la Torah, imparfait de la Torah. Et c'est pourquoi apparaît dans le Talmud l'idée qu'au temps messianique, Dieu donnera cette Torah parfaite que le peuple d'Israël n'était pas encore capable d'accepter. Parce que, justement, un miracle se sera produit dans son cœur et que maintenant, tout ce qui est dureté de cœur, tout ce qui est tendance au péché aura disparu. Il y a même, certains vont jusqu'à émettre l'idée que dans ce temps du Messie, le peuple d'Israël sera tellement proche de Dieu qu'il n'aura même plus besoin de Torah du tout. Il y a aussi d'autres idées, parmi d'autres, n'est-ce pas ? La Torah a deux aspects. Les commandements négatifs, tu ne feras pas. Et les commandements positifs, tu feras. Et la Torah, donc, est comparée, dans différents textes, notamment dans le livre des Proverbes, à l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Bon. Mais en fait, disent les rabbins, ça c'est vrai de la dernière Torah. Mais en fin de compte, il y a une Torah actuelle, il y a la Torah à venir. Et ce sont l'image des deux arbres du jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi ? C'est l'image de la Torah actuelle. Parce qu'elle a un aspect qui concerne le bien, tu feras. Et un aspect qui concerne le mal, tu ne feras pas. Donc, c'est l'arbre du bien et du mal. Au temps de la fin, elle sera entièrement positive. Les commandements « tu ne feras pas » ne seront plus nécessaires. Il n'y aura plus que les commandements « tu feras », ce sera l'arbre de vie. Le deuxième arbre du jardin. Troisième idée, on trouve aussi dans le livre du Deutéronome ce commandement qui est donné au roi. Le roi que le peuple d'Israël mettra à sa tête devra écrire pour lui-même ce qu'on appelle Mishneh Torah, un exemplaire de la Torah, dans lequel il méditera jour et nuit pour conduire le peuple dans les voies de Dieu. Bon. Le roi en question, bien entendu, c'est le Messie. Le Messie, préexistant, bien sûr, que fait-il en attendant le jour de son apparition? Il est dans le ciel. Et il écrit ce Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça peut vouloir dire aussi une deuxième Torah. Il écrit une deuxième Torah, cette Torah parfaite. Et le Messie sera un second Moïse. Ça veut dire il sera un second législateur. De la même manière que le premier législateur a donné la première Torah, le deuxième législateur donnera une deuxième Torah. Toujours sur ce registre-là, on trouve des textes dans le Talmud qui disent à peu près ceci. Moïse a donné 613 commandements, vous savez. Bon. Mais quand le Messie viendra, la Torah qu'il apportera sera une Torah simplifiée, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que cette Torah ne concernera pas seulement Israël, qui n'en aura plus besoin. Nous avons vu tout à l'heure pourquoi, parce qu'il sera tellement proche de Dieu qu'il n'aura même plus besoin de Torah. Et par conséquent, pour qui le Messie donnera-t-il la Torah ? Aux nations. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe 2, nous avons vu ça cet an dernier, de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem après l'Éternel. Les nations viendront à Jérusalem en disant, montons à Sion pour qu'il nous enseigne sa Torah. Voilà. Le Messie enseignera la Torah au peuple. Selon qu'il est écrit dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, le Shiloh, le Messie, sera le législateur des peuples. Vous trouvez ça d'ailleurs dans la grande commission, dans Matthieu, enfin la finale de Matthieu. Hein. Enseignez les disciples que vous ferez du sein de toutes les nations à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et si vous retraduisez en hébreu, ça vous donne enseignez-leur à garder toute ma Torah. Tout ce que je prescris, c'est la Torah. Torah, c'est ce qui a été prescrit. Donc, une Torah qui concernera les nations. Et c'est cette Torah que le Messie prépare en attendant le jour où il sera manifesté et où il fera en sorte, justement, que sa Torah touchera tous les peuples. Alors, il y a aussi cette idée que la Nouvelle Alliance aura une capacité, une puissance de pardon tout à fait exceptionnelle, qu'on n'a pas encore vue, qui permettra l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. La terre entière sera couverte de la connaissance de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel vient de la Torah, c'est évident. Comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. Et alors à ce moment-là, les nations non-juives, elles aussi, se tourneront vers la Torah d'Israël. Bon. Maintenant, par ce moyen-là également, le pouvoir politique mondial sera exercé par le peuple d'Israël. Alors que pour l'heure, justement, les nations non-juives dominent la politique mondiale, ce qui est aussi en relation justement avec la vision de la Torah que l'on a dans le judaïsme. Dans le judaïsme pré-rabbinique, hein, pas le judaïsme actuel, mais le judaïsme pré-rabbinique, c'est-à-dire le judaïsme de l'époque qui a précédé la venue de Jésus. Maintenant, il y a un texte tout à fait intéressant que nous lisons, si vous voulez, dans 2 Timothée, chapitre 3 et verset 16, bien connu, n'est-ce pas ? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Ça va loin, hein ? Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. N'importe quel rabbin de l'époque de Paul ou de l'époque actuelle signerait une déclaration de ce type-là dès demain. Le but de la Torah, c'est effectivement rendre l'homme capable d'accomplir des œuvres bonnes. Bien, Paul ne dit rien d'autre. Alors, ça peut nous étonner. Quand nous disons de Paul qu'il est l'apôtre de la grâce, bon, là, justement, oui, la grâce. Mais le but final est celui-là. c'est de rendre l'homme de Dieu capable d'accomplir toute bonne œuvre. Et ce texte nous montre la Torah qui a une dimension universelle et qui par conséquent n'est pas abolie pour Paul du tout. Car quand nous disons toute écriture, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Paul, l'écriture c'était uniquement ce que nous appelons l'Ancien Testament. Que le Nouveau Testament, en tant que recueil d'écrits canoniques, n'existait pas de son temps. Que la Bible de Jésus et que la Bible de Paul n'étaient autres que justement, encore une fois, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Voilà, alors ça c'est une chose importante. Maintenant, pour ce qui est de l'époque actuelle, le Seigneur a dit qu'il était venu non pas pour abolir, mais qu'il était venu pour accomplir. Et nous avons vu la dernière fois que Paul reprend à son compte cette même pensée dans le début de l'Épître aux Romains. Est-ce que, dit-il, nous anéantissons la Torah par la foi? Il vient de parler justement de la justification par la foi, qui est valable aussi bien pour le juif que pour le non-juif. Alors évidemment, il prévient tout de suite l'objection qui pourrait venir immédiatement dans l'esprit du juif. Est-ce que cette vision d'un salut par la foi anéantirait la Torah? Et Paul répond donc d'une expression qui est absolument intraduisible, « Chas v'chalil ». C'est impensable. C'est hors de question. Au contraire. Nous établissons la Torah, nous accomplissons la Torah. Or, cette expression « accomplir », « l'ekayem » en hébreu, signifie non seulement accomplir concrètement, pratiquement, mais également mettre en lumière le sens exact du texte. Et vous trouvez ça donc dans la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne, où Jésus se présente vraiment comme le législateur nouveau, le nouveau Moïse qui donne une nouvelle Torah. Pourquoi sur la montagne? Parce que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. Et là, de quelle montagne s'agit-il? Peu importe, une montagne. Parce que le législateur se doit, comme le premier législateur, de donner sa Torah nouvelle sur la montagne. Et là, le deuxième législateur dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Voilà. Et alors là, on traduit souvent d'une manière tout à fait erronée. Il faut retraduire, qui a ni Omer Lachem. Ça veut dire, ça c'est l'explication, comme on dit, me disent les rabbins. Voici l'explication de ce texte. Voici le sens exact. Parce que moi, le Messie, Jésus, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour accomplir. Alors là, on est un petit peu assis quand on lit parfois certaines interprétations qu'il y a dans les milieux chrétiens. Jésus, et on se base sur un autre texte, la loi et les prophètes, la Torah et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà. Et là, donc, Jésus est venu, effectivement, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et Jésus a accompli la Torah complètement. Il a tout accompli. Et sur la croix, il a dit tout est accompli. Si bien que nous n'avons plus rien à accomplir. La vraie, il faut le faire. Et finalement, si Jésus a accompli la Torah et que nous n'avons plus à l'accomplir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a aboli la Torah. Pratiquement, c'est à ça. Et Jésus se défend de le faire, justement. Il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir. Et on fait le contresens sur le mot « l'ekayem », « accomplir », ça veut dire « donner la signification exacte du commandement ». Et c'est ce que Jésus fait, on voit bien dans le contexte du serment sur la montagne. Jésus ne fait pas autre chose. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « tu ne tueras pas », mais le véritable sens du commandement, si on remonte tout à fait à la source, le fait même de se mettre en colère est déjà un premier pas vers le meurtre. Voilà le sens exact du commandement. Et puis, bon, il y a toute la discussion sur ce qu'on appelle les commandements lourds, les commandements légers, en hébreu, qu'on a traduit en français parce que ça n'a pas de sens, par commandement, petit commandement ou grand commandement. Bon, le mot hébreu, c'est commandement lourd et commandement léger. Hein? Ça veut dire les choses faciles et les choses difficiles. Bon, j'ai entendu qu'il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Celui qui regarde une femme, c'est déjà, il y a déjà la morse. Voilà le sens exact du commandement. Donc je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Et si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ben dis donc. Ben dis donc, alors si c'est ça, comme disent un jour les disciples à Jésus, ah ben si c'est ça, alors, hein, qui peut être sauvé? Jésus répond, aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible. Donc ici, il s'agit de mettre en lumière le sens exact des textes. Lui donner sa pleine lumière, sa pleine signification. Maintenant, acte 18, verset 9. Acte 15, verset 22. L'histoire du conseil de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait des Goyim qui se tournent vers Jésus le Messie? Finalement, on adopte, vous savez, les mesures. Bon, vous connaissez le texte, c'est pas la peine, on va pas le relire. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est le fait que Paul accepte de porter partout dans les églises qu'il a fondées une lettre qui respecte la pleine identité des Juifs qui ont cru en Jésus. Parce qu'il y a ça dans la lettre, implicitement. Pour ce qui est des païens, nous avons décidé, le Saint-Esprit nous a pris au Saint-Esprit à nous, de n'imposer que ce qui est nécessaire. Qu'ils se détournent des idoles, de la pornéia, des relations sexuelles illicites, typiques des païens de cette époque, pour ne pas parler de la nôtre, des animaux étouffés et de la consommation du sang. Pour le reste, bon. Certains manuscrits anciens ajoutent quelque chose et qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent, ce qui est une manière de résumer la Torah dans le judaïsme. Que ce soit authentique ou pas authentique, cette phrase, peu importe, en tout cas, elle est sous-entendue, bien sûr. Mais Jacques dit d'une manière claire, pour les Juifs qui ont cru en Jésus, rien n'est remis en question. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est même pas la peine de le rappeler. Bon, si Paul n'est pas d'accord avec ça, comment se fait-il qu'il accepte de porter cette lettre partout dans les églises où il passe? Ou Paul est le dernier des hypocrites, mais à ce moment-là, il n'est plus crédible, ou bien c'est qu'il était d'accord avec ça. Et il est bien évident, d'ailleurs on le voit dans d'autres attitudes de Paul, qu'il était parfaitement d'accord avec cette idée. autre exemple, acte 23, versets 3 à 12, il veut être à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte. Si vraiment, comme certains le laissent entendre quand ils lisent les Galates, respecter les fêtes juives est une abomination, eh bien à ce moment-là, qu'on vienne m'expliquer pourquoi Paul tenait tellement à célébrer la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte à Jérusalem. Bon, dans un autre texte, Paul se défend d'avoir fait quoi que ce soit contre la Torah. Acte 25, verset 8. Acte 28, verset 17. Encore une fois, où c'est un parfait menteur, ce dont l'accusent ses adversaires, d'ailleurs. Si, au contraire, tu as violé la Torah. Non, dit Paul, pas du tout, en rien. Jamais, jamais j'ai violé la Torah. Qui croire? Les détracteurs de Paul? Ou bien Paul. Moi, je préfère croire Paul. Hein. Bon, et là, je citerai à nouveau la parole fort pertinente d'Irénée de Lyon, deux générations après, trois générations, qui disait que, au nom de quoi, certains se permettent de regarder au-dessus de l'épaule des apôtres pour corriger leurs erreurs. Et Irénée, qui a connu Jean, l'apôtre, directement, déclare d'une manière absolument explicite que les apôtres étaient des gens qui respectaient la Torah. Alors, c'est dans cela qu'il disait, ça gêne certains. Certains qui seraient tentés de dire, et c'est ce qu'on entend encore dire dans certains milieux, certaines écoles d'exégétique aujourd'hui, que finalement, quand Paul a accepté de faire le vœu, etc., d'offrir le sacrifice, il s'est laissé convaincre par Jacques, parce qu'il était dépressif. Bon, à ce moment-là, Paul n'a pas particulièrement un tempérament dépressif. Et deuxièmement, quand on le voit résister, comme il le fait à Pierre à Antioche, quand il n'est pas d'accord, on voit mal Paul se laisser convaincre de quelque chose qui serait contraire à ses convictions. Encore une fois, si Paul a fait ces choses, c'est parce qu'il était quelque part d'accord avec elles. Romains 3, verset 31, je le citais tout à l'heure. La Torah est un don de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Il nous dit aussi ceci, la loi de Dieu est bonne. Elle est spirituelle, ça veut dire elle vient d'en haut. Et Paul nie que le problème soit la Torah ou soit dans la Torah. Ça, il le répète, il le martèle constamment. Le problème n'est pas la Torah. Alors, je ne comprends pas très bien comment on s'obstine, malgré tout, à faire de la Torah la cause de tous les malheurs de l'homme. Et je pense à un cantique qu'on a dans notre recueil des ailes de la foi que nous ne chantons jamais pour cause. « Seigneur, du fardeau de la Torah, tu m'as délivré. » Comme si j'étais un juif élevé dans le respect de la Torah, d'ailleurs. Ce qui n'est vrai pour pratiquement personne d'entre nous. Et comme si, finalement, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, refaisait... une expérience d'un juif religieux qui soudain se trouve confronté justement à cette Torah qui, somme toute, est mauvaise. Paul fait constamment allusion à la Torah pour exhorter ceux auxquels il écrit de s'y conformer. Exemple. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable au Seigneur, ainsi que cela a été écrit. Où cela est-il écrit ? Dans le Coran, dans les œuvres de saint Augustin? Non, dans la Torah. C'est évident. ce qui maintenant est tout à fait intéressant pour Paul, c'est que Jésus, le Messie, est la Torah faite chair. Il est justement parce que lui-même a accompli cette Torah, il est l'incarnation même de la Torah. Mais, diront certains, Jésus n'est-il pas venu nous libérer de la Torah ? Non. Jamais Paul n'a dit ça. Paul nous dit, le Messie nous a délivrés de la malédiction de la Torah. Ah, c'est très différent. Ah, c'est pareil, diront certains. Minute. Paul qui dit, je parle à des gens qui connaissent la Torah, s'il revenait aujourd'hui, il devrait un peu expliquer à des gens qui ne connaissent pas si bien la Torah que ça. Car si justement ceux qui parlent ainsi connaissaient la Torah, ils sauraient que la Torah se termine comment ? Par le thème qu'on trouve d'ailleurs dans un écrit chrétien du IIe siècle, la Didaché des douze apôtres, par le thème qui revient souvent aussi dans l'Évangile des deux chemins, des deux voies. Voici, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et la bénédiction, si tu écoutes les paroles de cette Torah et si tu les mets en pratique. Mais le chemin de la mort et de la malédiction, si tu n'écoutes pas les paroles de cette Torah et si tu ne les mets pas en pratique. Sur celui qui viole la Torah, la Torah prononce une malédiction. Maudit, et Paul le rappelle, il cite Lévitique, maudit est quiconque ne met pas en pratique toutes les paroles de cette Torah. Voilà. Il y a une malédiction de la Torah, que la Torah prononce elle-même sur celui qui la viole. Et cette malédiction, elle ne vient pas du fait que la Torah est mauvaise. Même cette malédiction, elle est normale, elle est juste, elle est bonne. Parce qu'elle met en évidence, comme nous dit l'apôtre Paul, la justice de Dieu. Ce que Dieu déclare bien et juste. L'homme peut le connaître. Voilà. Et s'il ne marche pas dans cette justice, il est coupable. Et le problème n'est pas en Dieu. Le problème n'est pas dans la Torah. Le problème, il est dans l'homme pécheur. C'est tout. Parce que, dit l'apôtre Paul, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Voilà le problème. Et là, il y a un déplacement total de la question. Encore une fois, le problème, il n'est pas la Torah. Et Paul le rappelle, la Torah est juste et bonne, le commandement est bon, juste, saint. Mais le problème, il est en moi. Il est justement dans cette incapacité qui est la mienne de mettre en pratique toutes les paroles de la Torah. Tant et si bien que celui qui viole un seul commandement se rend coupable d'avoir violé la Torah tout entière. Et par conséquent, je me retrouve sous la malédiction que prononce la Torah sur celui qui la viole. Et c'est pourquoi, dit Paul, j'ai besoin d'un sauveur qui vient m'arracher à cette malédiction. Et ce sauveur, c'est Jésus. Jésus qui va être l'objet de la malédiction suprême de la Torah. Cette malédiction, nous la trouvons dans le Deutéronome, maudit, et quiconque est pendu au bois. Le fait d'être pendu au bois, d'être mis à mort de cette manière, est une preuve de la dérédiction de Dieu, de la désapprobation de Dieu. C'est la malédiction. Maudit et quiconque est pendu au bois. Voilà. Être pendu au bois, être placé sous la malédiction, sous l'anathème en quelque sorte, c'est être retranché de son peuple, retranché du peuple de Dieu. Et c'est exactement ce que nous dit le chant du serviteur, Ésaïe 53. Nous avons pensé qu'il était retranché, oui, il a été retranché, mais pour les péchés du peuple. Et là, nous sommes justement au cœur du paradoxe de la croix, et donc de la foi. C'est que ce Jésus qui a été élevé sur le bois, qui a été pendu au bois, a été fait malédiction pour nous. Il a pris sur lui la malédiction que la Torah prononçait sur le pécheur, alors que lui, il était le juste. De telle manière qu'il rend inefficace, inopérante pour nous, cette malédiction de la Torah. Et ça, nous dit l'apôtre Paul, ça vaut pour les Juifs qui sont sous la Torah, et ça vaut pour les non-Juifs qui ne sont pas sous la Torah, mais qui seront quand même jugés en dernier recours selon la Torah de Dieu. Début d'Épître aux Romains. Parce que justement, Jésus, en étant pendu au bois, a été retranché du sein du peuple d'Israël, retranché de son peuple, et mis au rang des goyim. Donc non seulement il s'est identifié au peuple d'Israël, mais il s'est identifié aux nations, de telle sorte qu'il peut devenir à la fois le sauveur des Juifs et le sauveur des nations. Vous voyez la profondeur de la réflexion de Paul. Vous trouvez ça chez les Galates, dans l'Épître aux Galates. Et Jésus ainsi, eh bien, Dieu le ressuscite. Ça, c'est le point central. Ça, c'est aussi ce qu'une théologie chrétienne a le plus grand mal à comprendre, comme nous l'ont dit les orthodoxes. Ils ont raison. Quand il dit « vous, les latins, vous insistez trop sur la mort de Jésus, pas assez sur la résurrection. Or, sans la résurrection, la mort n'est rien. La mort, s'il n'y avait pas la résurrection, ne serait que la preuve que Dieu l'a rejetée. Mais voilà, celui qui a toute l'apparence d'être un rejeté, Dieu le ressuscite. le premier d'entre les morts. Ça veut dire Dieu le justifie. Non, cet homme n'est pas retranché. Cet homme n'est pas maudit. Mais alors il est devenu malédiction. Oui, il a pris la malédiction des pécheurs sur lui. Et alors, si la Torah annonce une malédiction sur le pécheur, elle annonce aussi une bénédiction. Bénédiction sur le peuple d'Israël. Abraham, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Voilà. Mais cette bénédiction concerne aussi les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et par Jésus, le descendant d'Abraham, Zéra en hébreu, on traduit par postérité dans Genèse 12, mais qui est au singulier, et selon un procédé midrashique typique, Paul n'interprète pas ce texte en disant « Toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ce descendant-là. » Et parce que Jésus a été placé au rang des malfaiteurs, est devenu malédiction pour les Juifs et pour les nations. Il rend possible la bénédiction d'Abraham pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Que les nations aussi puissent entrer dans cette bénédiction qui avait été faite à Abraham. Ça, c'est le paradoxe dans lequel Paul se meut dans, justement, l'Épître aux Galates en particulier, considéré comme l'Épître la plus antinomique qui soit. Au contraire, ça, la malédiction de la Torah est ôtée par la croix et par la résurrection de Jésus. Alors, nous dit l'apôtre Paul, le problème d'Israël, et ça nous trouvons ça dans Romains 9, verset 31, ce n'est pas qu'Israël ait recherché la Torah. Il a bien fait de rechercher la Torah. Et il fait bien de le faire. Ce n'est pas le but qui est mauvais. C'est le moyen. Car c'est par la foi qu'on obtient cette justice que la Torah nous propose. Pourquoi ? Parce que nous avons vu tout à l'heure dans Timothée que le but de la Torah, c'est de conduire l'homme à la justice. Encore une fois, ce n'est pas le but qui est mauvais. C'est le moyen. Ce n'est pas par les efforts de l'homme que l'on acquiert cette justice. Même si ces efforts ont pour but de reproduire les commandements de la Torah dans la vie de l'individu, c'est par la foi dans cette œuvre de Jésus qui change la malédiction de la Torah en bénédiction, qui fait que gratuitement, sans aucune condition autre que la foi, Dieu impute. Dieu n'impute pas la malédiction normale qui aurait dû logiquement venir sur le pécheur, mais lui, au contraire, lui impute la bénédiction. Et toujours au Galates, Paul nous dit aussi une phrase qui est souvent très mal comprise. Car le Messie est le télos de la Torah. Et on traduit en général cette expression de la manière suivante. Car le Messie est la fin de la Torah. Fin, donc, et il met fin à la Torah. Allez, terminé. On emballe et on s'en va. On fait un contresens total sur cette expression. Telos peut signifier effectivement la fin d'une chose, en grec. Mais comme en français d'ailleurs, mon vieux français, peut signifier une autre, avoir une autre signification. La fin, c'est le but. Le but. À quelle fin fais-tu cela ? Dans quel but ? On a même ça dans notre français moderne. Ce n'est pas souvent employé, mais on peut l'employer. Hein? Quelles sont tes fins ? Ça veut dire, quel est ton but caché ? Hein? Qu'est-ce que tu recherches ? Le Messie est le but de la Torah. Le Messie n'est pas celui qui met la fin à la Torah, mais c'est toute la démonstration de Paul, justement en Galates. La Torah est un enseignant, un pédagogue, pour nous conduire au Messie, parce que le Messie est le but. Le Messie, plutôt la Torah, nous conduit à la découverte du besoin du Messie. Elle nous conduit à la découverte de l'identité du Messie. Et elle nous conduit à reconnaître le Messie quand il paraît et l'œuvre du Messie. Il n'y a pas de possibilité de reconnaître le Messie en dehors de la Torah. Et encore une fois, lorsqu'on nie la Torah, et c'est ce que je disais tout à l'heure en commençant, toute interprétation de la Torah qui n'est pas cohérente avec ce que la Torah dit d'elle-même est à rejeter a priori. Et il faut que le Messie vienne conformément à ce qui a été écrit de lui. Et le Jésus ressuscité explique à ses disciples, tant sur le chemin d'Emmaüs qu'ensuite dans la chambre haute, ce qui était écrit de lui dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Ktuvim, les écrits. Et il faut que tout soit conforme à ce qui était écrit. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que le Messie est le but de la Torah. Et justement, ce qui fausse aujourd'hui la perspective, très souvent, plus aujourd'hui peut-être encore qu'hier, c'est que la prédication de l'Église moderne, y compris la prédication dans les églises évangéliques, a surtout pour avoir avec le bonheur individuel de chaque participant. Comment Dieu peut-il nous rendre heureux? Finalement, c'est ce que la plupart des membres d'Église attendent qu'on leur dise dans la prédication. Heureux dans le monde futur, heureux pour l'éternité, mais également heureux dans ce monde-ci. Désolé, mais jamais ni Jésus ni les apôtres n'ont centré une seule prédication sur ce thème. N'en trouve aucun. Ah, vous allez me dire, mais la vie éternelle. La vie éternelle, oui, une vie bien heureuse, c'est vrai. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui vient en plus, si j'ose dire. Le but de la Torah, nous l'avons vu, le but de toute écriture, nous dit l'apôtre Paul, c'est de rendre l'homme capable d'accomplir toute justice, d'être juste aux yeux de Dieu, de glorifier Dieu. Le but est la gloire de Dieu. Dieu a tout créé pour sa gloire. Et si ensuite, si nous réalisons ce programme de Dieu, si nous nous en trouvons bien, et si nous sommes heureux dans ce monde ou dans le monde futur, ce n'est pas le but premier. C'est la conséquence du but premier qui est encore une fois de glorifier Dieu. Servir à la louange de sa gloire, nous dit le texte biblique. Et ça, c'est très important de replacer les choses dans leur véritable perspective. Parce que justement, s'il y a aujourd'hui un antinominalisme dans l'Église, c'est parce que l'on considère souvent que les commandements de Dieu, donc la Torah, sont une entrave à l'épanouissement personnel, donc au bonheur personnel. Et souvent, l'antinominalisme actuel des chrétiens repose essentiellement sur ce but-là quand on gratte. Évidemment, ce n'est pas ce que l'on dit d'une manière ouverte quand on s'en prend à la Torah, mais la réalité, elle est là. Ça me déplaît, tel ou tel commandement me déplaît, donc ternit ma joie, ternit mon bonheur, ternit mon plaisir. Donc ça ne peut pas être de Dieu, puisque Dieu, le bon Dieu, comme on dit, qui n'a d'autre but que de me rendre heureux. Non, non, le Seigneur n'a pas d'autre but, a bien d'autre but que de me rendre heureux. Ce n'est pas son but premier de me rendre heureux, désolé. Le premier but de Dieu, c'est de me rendre saint, c'est de me rendre juste. Voilà, c'est ça le but de Dieu, pour moi. C'est ça son programme. Et le fait d'être heureux ou pas heureux, finalement, c'est assez secondaire. Alors ça va évidemment décourager des multitudes. « Oh ben si c'est ça, alors j'ai rien à faire du christianisme, autant que j'aille dans le bouddhisme, là, parce que là je vais apprendre de nirvana, je vais, etc. » Bon, ben, très bien, ben, allez dans le bouddhisme. J'ai aucun inconvénient. Mais ça fausse complètement la perspective. Alors, je sais bien, ceci étant dit, qu'il y a, par rapport à un certain nombre de textes de Paul, des passages difficiles. des passages difficiles qui sembleraient remettre en question effectivement ce que nous venons de dire là. En fait, ces passages difficiles, il faut les examiner les uns après les autres et les examiner plus particulièrement dans leur contexte. Parce qu'ils ne sont difficiles que dans la mesure, justement, ils sont extirpés de leur contexte, globalisés, généralisés. Et encore une fois, comme l'avons dit, Paul est un homme qui parle toujours dans des situations précises. Situations. Et justement, ces passages sont difficiles pour une seule et simple, simple raison, c'est que souvent nous ne connaissons pas assez bien les circonstances dans lesquelles Paul a été amené à prononcer des formules qui sont parfois des formules à l'emporte-pièce, et qui doivent être justement replacées dans un contexte bien précis. Bon, je ne vais pas entrer dans cet aspect ce soir, on va laisser ça pour la prochaine fois, nous allons nous arrêter là simplement. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce qui a été dit maintenant ?
L'état de la Torah,
ça n'a jamais été retrouvé. Non, non. Ça peut l'être, hein, c'est... Bon, logiquement, c'est dans l'Arche d'Alliance, et il y a des traditions, il y a des toutes sortes de Midrashim qui court sur l'idée qu'au moment de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 586, Jérémie le prophète a caché l'arche avec donc ce qu'il y avait dedans, notamment justement les tables de la Torah, dans une cachette, soit sous le temple, soit près du Jourdain, il y a d'autres traditions, etc. Et que, au temps de la fin, au moment de la venue du Messie, on les retrouvera, l'arche d'Alliance. C'est cette tradition qui avait déjà conduit un homme comme William Eschler à la fin du 19e siècle, quand il avait été en Israël pour la première fois, à sillonner le désert en long, en large et en travers à la recherche de l'Arche d'Alliance. C'est les raisons qui ont poussé un certain nombre d'archéologues aussi à essayer de fouiller le long en tout cas de la mosquée avec les fameux problèmes que ça a provoqué en son temps. C'est la raison qui pousse aujourd'hui les Palestiniens à faire disparaître, à fouiller eux-mêmes sous le temple pour essayer de faire disparaître toute trace. Justement, ils voudraient retrouver l'Arche d'Alliance avant que ne le fassent les Juifs pour la détruire, pour montrer que, etc.